R サイン。
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL au cœur de la vie citoyenne.
Bienvenue à Trait d'Union. Ce vendredi, il fait beau. Je sais, je radote. Ça ne me dérange pas. Je me permets un petit retour sur l'actualité avant d'en venir au sujet d'aujourd'hui. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, j'annonçais la venue de Alejandra Zaga-Mendez, la députée de Verdun, qui sera avec nous finalement via le téléphone. Oui.
La technologie.
Parce que vous savez ce qui court en ces temps-ci. D'ailleurs, moi, j'ai une petite gorge irritée, là. Alors, ça court, mais elle sera parmi nous un petit peu plus tard, dans quelques minutes, suite à mon laïus du début. Donc, dans l'actualité, il y en a été question lors du gala Québec Cinéma, lors de Tout le monde en parle également. De quoi donc,
Louise?
Oui, de la mainmise des méga-entreprises de distribution de toute diffusion d'informations et de culture et de communication, comme le sont les méchants Meta, Google, Netflix et compagnie, là.
Paul, là.
Oui, eux autres. On veut dénoncer le fait qu'ils nuisent à l'information traditionnelle, peut-être. Traditionnels. Mais ces médias sont pour la plupart justes et sûrs. La plupart, j'ai bien dit, hein? Il y a des nuances à apporter. Bon, mon fils en a encore plus, mais bon, je parle d'Alexis ici.
Oui, je suis le salaud.
Donc, ils ont décidé, à travers leur réseau, de caviarder les médias sur les réseaux sociaux, donc, et ça nuit à la démocratie, gang! Il faut le dénoncer. Puis là, la direction de CBC Radio-Canada, parce que c'est juste ça qu'on entendait, CBC Radio-Canada, lors des émissions dont je faisais mention, fait preuve d'un manque cruel de solidarité à cet effet même. Décidément, le nom de Tate, hein? En tout cas. Oui, Mme Tate qui a décidé de diminuer. En fait, elle retire les subventions. Elle va diminuer les subventions. Et elle a décidé qu'elle coupait autant du côté francophone qu'anglophone, sachant très bien que le côté francophone n'a rien à voir avec ce qui se passe télévisuellement et radiophoniquement. Mm-hmm. Nous, on rapporte ici de la radio et la télé française, tandis que du côté anglophone, c'est plus compliqué. Mais elle coupe égale partout. Tu sais, bon, elle n'en tient pas compte de notre différence. C'est étonnant, c'est effrayant. Bon. Donc, il faudra qu'on reparle des sources utilisées par les gens de toute génération. On va faire ça en 2024, gang, pour y dire à quel point il y a un danger. Hein? Anguille sous roche, il y a danger.
Ben, il y a beaucoup de choses. Tu sais, tu parles de médias traditionnels qui sont
C'est quoi ta nuance, Alexis?
Ben, y a-tu encore des médias traditionnels? J'ai l'impression que c'est faire comme si les choses étaient comme avant, mais tu sais, maintenant, même les médias comme beaucoup de journaux sont en fait possédés par souvent les mêmes personnes, puis ça, c'est ça partout dans le monde. Donc, il y a comme une concentration, puis finalement, les sources de financement, c'est tout le temps les mêmes, c'est la publicité.
Oui.
Fait qu'on observe comme une tendance difficilement réversible, en fait.
Oui, je sais, mais quand même, là, tu sais, là, il y a un accès, en tout cas, au Canada. Puis si tous les pays pouvaient s'entendre pour dire à ces méta-compagnies-là, méga-méta... Méga.
Les GAFAM méga qu'on appelle.
Ah, oui, c'est ça, les GAFAM. Si tous les pays pouvaient dire, hey, non, ça va faire, là, on veut quand même garder nos sources d'informations locales, qu'elles soient nationales ou encore plus à petite échelle, ben en tout cas.
Ben mais les États-Unis ne le feront jamais parce que les GAFAM sont toutes aux États-Unis.
Je le sais, les tabarnouches. En tout cas. Donc, on parle des sources traditionnelles, puis ceux qui utilisent encore, qui en font un usage quotidien ou hebdomadaire, savaient très bien qu'il y a eu un événement dans les semaines dernières, la semaine passée, qui s'est terminé mardi. Parce que c'était la COP,
oui, la
Alexis.
COP.
La COP dans le ventre du dragon même. Ça s'est passé dans le ventre
du
dragon. C'est fou. Mais c'est quand même une des COP qui... Tout le monde en est sorti étonné et surpris.
Ouais.
Mais je vais en faire une petite énumération d'un résumé que j'ai obtenu pour dire qu'est-ce qui a été justement entendu.
Qu'est-ce qui s'est
passé à la COP? Oui, c'est ça. Alors, la COP, c'est la conférence sur les changements climatiques, faut-il le rappeler? Les grandes lignes de ce qui a été entendu, c'est que les énergies fossiles sont mentionnées pour la première fois en 28 ans. C'est la première fois qu'ils mentionnent les énergies fossiles. C'est quand même, hein?
Incroyable.
Ça, ouais. C'est par les représentants de 195 pays. 195 pays, c'était l'omerta à ce niveau-là. On vise maintenant une transition hors des combustibles fossiles, d'ici 2050.
Trop tard.
Trop tard, mais bon. À un moment donné, il va y avoir une catastrophe, puis on va dire, ah, ben là, on n'a plus le choix. Hein. Bon, deuxièmement, augmenter la capacité des énergies renouvelables. Mm-hmm. L'entente propose de tripler d'ici 2030. Troisièmement, accélérer la réduction de l'exploitation des subventions accordées au charbon, tout comme aux énergies fossiles. Je répète, accélérer la réduction, c'est bizarre comme formulation, hein? Accélérer la réduction.
Ouais.
Tu sais, un superlatif avec un... Bon.
Ben ça,
en tout cas, bref, il faut arrêter de les subventionner. Réduire les émissions de méthane et de dioxyde de carbone, toujours d'ici depuis 2030. Et puis le gaz naturel. Bon, pour l'instant, il est considéré comme étant moins polluant que le charbon, mais il est tout de même critiqué par beaucoup, plusieurs. Mais... ça reste quand même une option transitoire dans certains contextes. Donc, ben, il y a des pays où s'ils n'ont pas le choix...
Oui, mais ça, c'est le discours des gens qui veulent vendre leur... parce que le gaz, c'est super pratique parce que l'affaire avec le pétrole, c'est aussi que tu sais, tu as le liquide, mais tu as tous les tuyaux, tu sais, les fameux pipelines.
Mm-hmm.
Puis l'affaire de transitionner vers des énergies renouvelables, c'est soudainement, tous ces tuyaux-là, toutes ces infrastructures-là, ces machines-là, ils deviennent inutiles. C'est tout de l'argent dans lequel ont investi les grandes pétrolières. Fait qu'eux, ça fait bien leur affaire de trouver une manière de justifier d'utiliser quelque chose d'autre pour mettre dans ces tuyaux-là.
Je pense que c'est ça parce que résumé ce point-là, mais ils parlaient surtout qu'ils n'ont pas d'autre option que celle-là pour avoir de l'énergie. C'était leur argument.
Oui, mais c'est comme les gens que tu leur dis « faut moins de voitures en ville » puis ils disent « ben il y a des gens qui ont besoin d'une voiture ». Bien, ces gens-là qui ont besoin d'une voiture absolument, c'est les personnes à mobilité réduite et compagnie, c'est il y a toutes sortes de gens qui ont effectivement besoin d'une voiture, mais c'est comme 1% des voitures qu'on trouve dans la rue.
Ouais.
C'est la même chose avec les gaz. C'est ceux qui ont... que le gaz, c'est la seule option, puis que les énergies renouvelables, ce n'est pas une option, bien, c'est une minorité.
Mm-hmm.
Sauf qu'on se sert de cet argument-là pour généraliser puis dire « Ah, mais on a besoin de gaz. »
Donc, on utilise une minorité pour pouvoir...
Ben oui, c'est ça.
Justifier
mais tous les arguments,
de garder quelque chose en vie. Là.
Exactement. Puis ben les sources, ben là, je peux vous en trouver après, là, mais dans le sens que c'est clairement... c'est documenté. La même chose avec l'hydrogène vert, Énergir, qui essaie de nous faire à croire que son gaz, il est gentil, mais tu sais, c'est quand même du gaz.
C'est gentil, il est tout bleu, là. Tu sais, le marketing, il est bon là-dessus, hein. On met ça des beaux petits personnages, des petites gouttes, des petits, en tout cas.
Ouais.
Donc, le fait est qu'il est tout de même surprenant de voir ces avancées dans une réunion qui a tout de même lieu, comme je l'ai dit.
À Dubaï.
Au Qatar, hein. Puis le président,
c'est Dubaï, c'est pas au Qatar. Non. Dubaï, c'est pas au Qatar.
Oh non, je me trompe avec le pays qui est en train de négocier avec le Hamas et tout
oui,
ça.
Oui,
bon.
C'est ça. Bon.
OK, je mélange les affaires. Merci, fils Alexis, en passant. Donc, est-ce suffisant? Alexis va crier haut et fort, and now?
Ben c'est surtout, tu sais, l'accord de Paris là, que tout le monde parle tout le temps, là, que comme il y a, en fait, je ne sais même plus c'était quand, mais on disait, plafonner à 1,5 réchauffement, mais on a presque rien fait de ces mesures-là, puis les gens, ils ont signé. À quel point la COP28, même si on est comme waouh, on parle des gaz à effet de serre, on parle du pétrole pour la première fois, mais qu'est-ce qui dit que les gens vont respecter ces engagements-là? Il n'y en a aucun qui a été respecté. Ben aucun. la plupart des engagements les plus restrictifs ont jamais été respectés depuis le début des COP. Fait que là, évidemment, c'est bien qu'on le dise, mais je reste sceptique. Là.
Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on parle donc d'environnement aujourd'hui. Yeah, est-ce que vous l'aurez compris?
Un sujet
avec la belle
fun.
Annonce bleue et verte là, que j'ai mis cette semaine. Là,
j'ai une bouteille verte.
Ouais, pis,
les gens ne le voyaient pas.
Puis le réchauffement de la planète, en tout cas aujourd'hui, on le ressent, n'est-ce pas? Je suis bien trop habillée, moi, aujourd'hui. On parle donc d'environnement, comme je le disais, et on va en rajouter avec le biais que sont les claims miniers. Ça, on n'en parle pas assez, mais et tabourette.
Ouais.
Avec une personne qui connaît le sujet, il s'agit d'Alejandra Zaga-Mendez, qui est la députée de Verdun. Et puis, on va lui parler tout de suite après une pièce que j'aime beaucoup d'un groupe français que j'aime beaucoup qui s'appelle Feu Chatterton, qui vont chanter « Un monde nouveau ».
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Ouais. Demain, on le bégayait tous, sans y comprendre rien, à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Boum, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le tout.
Alors, c'est sous Mon Nouveau qu'on reçoit Alejandra. Bonjour, Alejandra.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, mais toi, moins bien, j'ai cru comprendre.
Oui, bon, un peu malade aujourd'hui, mais je suis quand même très contente d'être avec vous pour l'émission.
Oui, ben là, donc, on a commencé par parler de la COP, et puis... je vais te poser des questions d'abord. Je m'excuse, je vais te tutoyer, c'est correct?
C'est très correct. Je suis okay. Très contente.
Oh, d'accord. Pour toi, quelles ont été les avancées? Est-ce que pour toi, il y a eu des avancées suite à la COP?
En fait, la COP 28 qui vient de se finaliser est à la fois une avancée, mais à la fois un statu quo. Puis je m'explique, c'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire des COP, c'est-à-dire des rencontres, ce qu'on appelle des parties, l'ensemble des acteurs de la planète, que ce soit les pays en développement, les pays en voie de développement ou non industrialisés. C'est la première fois dans une rencontre comme celle-là en environnement qu'on fait mention de la nécessité de réduire la consommation des énergies fossiles. Mm-hmm. Et ça, c'est pas rien, parce que ça fait des années qu'il y a une pression internationale, bon, surtout par les pays en voie de développement, par les pays insulaires, qu'il faut reconnaître l'apport de l'industrie fossile, gazière et pétrolière, dans les changements climatiques, quelque chose qui, pour vous et moi, peut sembler très, très... quelque chose qui va de soi. C'est mm-hmm. dit, la COP est aussi un lieu où il y a eu beaucoup, beaucoup de lobbying qui existe toujours, dans lequel il y a une grande présence des entreprises pétrolières et gazières qui cherchent à ne pas porter tout le fardeau des changements climatiques. Néanmoins, lors de cette COP, on lit dans les textes finaux une mention de s'éloigner de la consommation des énergies fossiles. Ça, c'est un peu l'avancée. Ceci dit, les textes n'est pas très explicite à dire quand et comment on réduit cette consommation. Et de plus en plus, puis en fait, c'est ce qui est une évidence en fait pour des pays, ou puis j'irais même pour le Québec, on doit être dans une phase, pas de réduction ou d'éloignement, mais une phase de sortie de la dépendance qu'on a envers les énergies fossiles. Et ceci ne se trouve pas dans le texte. Et puis, c'est une grande déception pour des pays, puis j'irais même pour le Québec, parce que le Québec était la délégation québécoise qui était présente. Ils ont beaucoup, beaucoup poussé pour qu'on se retrouve dans une situation de réduction complète, sortie de la dépendance aux industries pétrolières. Et le résultat, le texte, il prône un peu le statu quo de ce côté-là.
Ouais, ben, c'est ce qui est ressorti de ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que le choix des mots est important et ce qui peut ressembler à un statu quo, c'est le fait qu'ils font appel aux gens. Le terme « appeler » fait en sorte qu'on laisse comme une porte ouverte. Là. On n'a pas fermé la porte complètement.
On n'a pas fermé la porte complètement, puis il faut aussi comprendre les dynamiques dans ce type de rencontres. Il n'y a jamais eu autant de lobbyistes pétrolières et gazières que lors de cette dernière COP-là. À chaque année, on voit l'augmentation de la présence des industries. La raison principale, comme je disais, ce n'est pas vivre avec tout le fardeau, mais surtout ne pas être perdant économiquement de cette transition. Parce que c'est les producteurs de pétrole, c'est les compagnies pétrolières qui sont responsables, on le sait bien, de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les dernières années. Et bien sûr, une réduction veut dire une perte en profit, une perte en revenu, et ils veulent garder certains acquis. Et c'est une des raisons pour laquelle ils sont très présents. D'ailleurs, dans la délégation canadienne, il y a une grande présence des lobbyistes pétroliers, des magnats du pétrole albertain.
Oui, c'est ça. La province albertaine avait son kiosque.
Mais il y avait Suncor également qui était présent. Suncor, c'est une entreprise de sable bitumineux en Alberta qui faisait partie de la délégation canadienne, à même titre que des ONG, c'est-à-dire quand le gouvernement amène tous les acteurs. Mais en tout cas, moi, je trouve ça inacceptable que le Québec, parce que le Québec est représenté par le Canada, si vous voulez, on peut parler de notre dynamique politique, mais le Québec est représenté par la délégation canadienne et à l'intérieur de cette délégation-là, on a des lobbyistes du pétrole albertain.
Et là. Jusqu'à quel point, justement, le gouvernement provincial peut tenir compte? Est-ce qu'il en tient compte des recommandations? Est-ce qu'il y a de l'autonomie à ce niveau-là?
Dans le cadre du Québec, le Québec, à l'international, bon, dans le cadre de la COP, il faut quand même reconnaître qu'on fait partie de ce qu'on appelle l'Alliance pour Beyond Oil and Gas. C'est une alliance internationale entre États et surtout des États comme des provinces ou comme il y a des États nationaux et infranationaux, et qui, le Québec en fait partie, était même invité avec le Danemark, là, j'ai pas le titre exact, là, mais à co-présider le Borgat, donc quand même une reconnaissance internationale. Et ça vient du fait que au Québec, on n'est pas un grand producteur des hydrocarbures, parce qu'on a fait un choix de société il y a quelques années avec Hydro-Québec, et c'est tant mieux. Donc, en ce moment, on récolte un peu les fruits de cette décision-là. Ceci dit, comment le Québec applique par la suite les engagements internationaux? Et il y en a un engagement que, selon moi, est le plus important, c'est-à-dire arriver aux objectifs de l'accord de Paris, des réductions. Et là-dedans, là-dessus, on est un peu plus en retard qu'on le pense, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on n'est pas des grands producteurs des hydrocarbures, mais de l'autre, on a une grande dépendance en termes de consommation. Et si on regarde le bilan du Québec en termes d'émissions de GES, nous ne sommes pas en train de réduire à la vitesse qu'il faudrait afin d'arriver aux objectifs de l'accord de Paris. Parce que moi, j'ai eu, dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est une réduction de 8-9% dans certains cas, voire que dans les secteurs qu'on devrait réduire, comme par exemple le transport, nous sommes en train d'augmenter nos émissions et augmenter la dépendance à la voiture solo.
Justement, dans... Écoute, parce que ce sujet-là, le fait de la voiture solo, ça touche plus d'un problème. On parle d'environnement ici. Ce matin, il y avait un article qui parlait du fait que le secteur où la petite jeune Ukrainienne s'est faite happer.
Oui.
On disait qu'on a essayé de régler le problème de circulation. Ça l'a aidé, sauf que le nombre de voitures a tellement augmenté que le problème y revient. Fait que non, c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour notre sécurité non plus, là. Faudrait peut-être pousser ça beaucoup, là. Je sais pas si je suis claire, là.
oui, mais en effet, le transport au Québec, c'est le nerf de la guerre en termes de lutte au changement climatique. Puis c'est pas seulement le transport, c'est pas seulement une question environnementale. C'est une question d'aménagement, c'est une question de mobilité. Puis penser aux personnes qui travaillent la nuit, qui travaillent la fin de semaine et qui n'ont pas les services de transport en commun nécessaires pour se transporter d'un lieu à l'autre, juste dans la couronne de Montréal. On n'est pas en Beauce, on n'est pas en Abitibi, là. Juste dans la couronne de Montréal, on n'a pas tous les services. C'est une question, bien sûr, de sécurité routière, donc des meilleurs... cohabitation avec les autres usagers de la route. C'est une question économique aussi. Quand on parle de mobilité des gens, on parle de mobilité des travailleurs, des gens qui vont étudier, qui reviennent à la maison la fin de semaine. Dans les dernières années, les transports interrégionaux au Québec ont grandement diminué. On parle de pertes de 60-70% dans certaines régions de fréquence. Et ça a des grands impacts en termes de développement économique régional, d'accès aux services. Le transport, c'est quelque chose de structurant. Et en plus de ça, plus on prend du transport collectif, on est en train de réduire nos émissions. Les choix qu'a fait le Québec dans les dernières années, selon moi, les choix qu'il continue à faire, le gouvernement actuel, c'est de continuer à investir plus d'argent dans le transport routier versus l'argent qui est donné aux sociétés de transport et aux nouveaux projets structurants dont on a besoin. Et puis, on peut en jaser les chacun, là, mais pour les nommer, REM de l'Est, un projet très bloqué, le tramway à Québec, un projet qui est abandonné, qui est mis de côté ou qu'on lance la balle à d'autres projets de la part de la ville de Montréal qui sont à l'étude, mais qui n'avancent pas du côté du ministère des Transports du Québec en termes de financement. Fait que dans les dernières années, concrètement, des grands projets structurants n'ont pas été annoncés ni aboutis. Et c'est très décevant, voire inquiétant.
C'est frustrant, moi, je trouve.
C'est aussi une question de justice sociale. On parlait de la petite fille qui s'est faite happer dans Centre-Sud. Puis Centre-Sud, c'est un quartier où il y a énormément de transit, mais en même temps, une population dont le salaire moyen est en bas de la moyenne régionale. Donc, c'est une population plus pauvre qui utilise à 70% les transports actifs ou les transports en commun, mais qui était un endroit extrêmement fréquenté par les voitures, donc qui subit finalement le choix des autres utilisateurs. Mais à l'inverse, t'as aussi... T'as aussi des quartiers excentrés où c'est difficile de ne pas avoir de voiture parce qu'il n'y a pas de service de transport en commun. Donc, c'est comme... on dirait que la question de la justice sociale est souvent comme évacuée puis comme mise derrière une question de choix individuel de l'automobiliste,
C'était ça, Alexis.
Quand on parle de transport structurant, c'est la structure qui donne, c'est aussi le mode de vie, c'est le droit à la mobilité, là, l'accès à la mobilité. Je donne tantôt l'exemple aussi des travailleurs que la nuit doivent se rendre tout seuls parce qu'ils n'ont pas de voiture pour sortir de l'hôpital et se rendre à la maison. Là. Ça, c'est concret. Là. Il y a beaucoup des gens, des personnes plus avec la hausse du coût de la vie, là, qui garder une voiture devient extrêmement cher. Et ce n'est pas permis à tout le monde. En ce moment, les gens ont la misère à faire leur épicerie. Ils vont couper ailleurs. Ils vont couper dans des services comme le transport. Puis c'est quelque chose qui est lamentable. Donc, c'est une question de justice sociale puis d'accessibilité, en effet.
On a Flo qui avait un commentaire ou une question?
Oui, c'était plus une question que d'autres choses. J'allais demander... ça serait quoi les meilleures solutions pour essayer de régler? Parce que là, tu disais qu'au Québec, la grosse guerre à combattre, c'était pour celle des transports. Puis là, d'après ce que j'entends, c'est principalement qu'on parle de transport en commun et tout. Puis est-ce que c'est accessible dans toutes les régions? Est-ce que c'est possible dans toutes les régions, d'après toi?
Au Québec, moi, je dirais, en ce qui concerne le transport interrégional, d'abord avant tout, c'est avoir c'est une société de transport public qui permet le transport entre les régions du Québec avec des sociétés publiques qui vont nous amener de Montréal à Rimouski, en passant à de Rimouski à Gaspé, de Joliette à Montréal. Bref, en ce moment, on est dépendant des entreprises privées comme Orléans Express et compagnie qui ont le monopole sur plusieurs lignes et qui coupent dans les services parce que ce qu'ils cherchent, c'est à faire du profit et pas offrir un service. On a une société publique en transport interrégional. Je pense que c'est très faisable en ce moment en termes de faisabilité. Là, juste avoir des services publics qui, on le sait que quand on paye, ben, on est en train de donner de l'argent à une société qui a comme mission d'offrir du transport entre des villes plutôt que juste faire du profit. Ça, déjà, on a toutes les infrastructures pour ça. On a des stations d'autobus, des gares d'autobus un peu partout. Les autoroutes sont déjà... Ça pourrait être un pas très petit, mais voir qui viendrait à combler un besoin et avoir ce type de projet encourage les personnes à laisser la voiture à la maison. On entend souvent des gens qui disent « J'aimerais ça, moi, aller passer du temps en nature, qui habite en ville, mais qui n'ont et qui doivent c'est louer une voiture ou qui achète une voiture seulement pour ça, avec ce type de réseaux de transport structurants pour lesquels nous avons déjà les infrastructures routières, viendrait donner de l'espoir, moi, je dirais, augmenter les chances que les gens puissent laisser la voiture à la maison. Ça, c'est un exemple en termes de région en région. Oui. Puis on le sait que la densité de la population vient influencer les types de projets qui va être développé. Et c'est correct. On ne cherche pas à avoir un train qui va passer dans chaque petit village du Québec, mais au moins, en ce moment, on est en train de reculer en ce qui concerne l'offre de transport. On recule plutôt qu'avancer, et c'est ça qui est dangereux, surtout à la lumière des changements climatiques.
Oui, pour nous amener tranquillement aux pubs qui s'en viennent. Juste rappeler que de ma génération, on prenait l'autobus pour aller à Val-David, aller à Québec, aller en Gaspésie. On prenait le bus voyageur et de voir qu'en une génération, c'est devenu de plus en plus individualiste. Le transport, c'est désolant. On va revenir après les pauses. On s'est tranquille, puis on va revenir avec les claims miniers, puis c'est Fred Pellerin qui va nous y amener tout de suite après la pause. À tout à l'heure.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. L'arrogance syndicale, la complaisance journalistique, la vache à l'aise citoyenne, bilan de 2023, festivités de fin d'année. En plus d'y trouver nos meilleurs vœux pour de très joyeuses fêtes.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Hey, merci pour la belle soirée. Je vais y aller, moi.
Attends un peu. Tu conduis même si t'as pris un verre.
Non, je suis bien correct.
Redis-moi ça plus proche.
Je suis bien correct.
Oh! Ça sent le sapin. Fernand, viens donc sentir ça.
Je suis bien correct pour conduire. J'ai presque pas bu.
Ouais, ça sent le sapin à planche.
Ça sent le sapin jusqu'ici.
N'essayez pas de leur passer un sapin. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Western, c'est l'émission animée par moi-même, Seba, où je fais jouer du vrai country d'ici d'Acadie et d'ailleurs issu de ma collection personnelle de vieux 33 tours. Western, chaque dimanche matin à 11h et en reprise le lundi après-midi à 13h sur CIBL.
Tu es un peu plus chez vous parce que le propriétaire qui est en dessus a comme un droit d'accès par chez vous pour aller en dessous de chez vous.
Il a dû utiliser un truc, une manigance que plusieurs semblent vouloir utiliser dorénavant, c'est d'acheter des claims sur son propre terrain.
Mais il y avait une partie de ma forêt qui n'était pas claimée. Fait que là, en voyant tout ça, tu sais, la loi des mines, c'était un peu tigidou paf paf, là. C'était un peu à la Western, le premier qui est arrivé, c'était lui, puis le premier qui a acheté ce bout-là, c'était lui. Fait que c'était un peu en cow-boy que c'est géré. Puis là, ben j'appelais. Ce qu'on me disait me sécurisait pas par rapport à la possibilité d'éventuellement voir des forages, la prospection se faire chez nous.
Le conseil municipal n'a pas l'intention de laisser trouer ce beau paysage-là.
Puis là, ben je pense que c'est en train de s'organiser qu'il y en a d'autres qui vont se clamer. Mais là, comme citoyen, nous, ça veut dire que la seule option qu'on a, c'est de se claimer. Ça reste une solution temporaire, parce que le claim, tu l'achètes pour 3 ans. Après ça, il faut investir dans la prospection, dans le développement minier. Tu sais, je pense pas que moi, comme citoyen, je peux me mettre à faire du forage. Puis, fait que ça reste une solution temporaire. Tu sais, on prétend depuis longtemps vouloir faire avancer la loi des mines en haut chez nos dirigeants, en consultation, en ci, en ça. À date, il n'y a pas grand-chose qui apparaît, qui semble bouger.
Fred est donc allé sur le site du gouvernement du Québec, j'estime, pour pouvoir acheter des claims sur son propre terrain. Tout nouveau claim et de couleur turquoise.
Là, moi, je me suis mis à me dire que ça serait beau qu'il y ait une vague de turquoise qui envahisse le territoire de tous ces claims-là qui n'auraient pas été achetés actuellement, puis que cette vague-là corresponde à des gestes citoyens, à du monde qui n'ont aucun intérêt dans le forage puis la prospection minière, mais qu'ils font pour protéger le territoire. T'sais, je pense que ça parlerait aussi dans le geste, ça.
Un citoyen, Gilbert Guérin, a parti la mobilisation citoyenne et à la date qu'a eu lieu le reportage de Julie Grenon de Radio-Canada, le 20 avril dernier, 49 titres actifs, donc achetés par ces compagnies-là, couvrent le territoire de Saint-Élie-Caxton. Et, comme l'a fait Fred, il invite les citoyens, donc, à acheter des claims sur leur propre terrain. Est-ce que ça résume un peu la situation ou t'en as rajouté, ma chère Alejandra?
Ça résume bien la situation de ce qui se passe dans le sud de Shawinigan, nord de Trois-Rivières, dans le coin où Fred Pellerin habite. J'ai eu la chance de m'y rendre. J'ai eu la chance de rencontrer les acteurs qui se mobilisent, qui ont formé une coalition qui s'appelle Touche pas à mon klaxon. Oui, c'est vraiment une belle initiative citoyenne. Puis je pense qu'est-ce qui est important à comprendre ici, c'est que l'exploration minière, c'est-à-dire les droits à l'exploration minière, c'était ça les claims miniers, là. Il y a une augmentation fulgurante un peu partout au Québec. On a vu dans le nord de Trois-Rivières, dans le coin de Saint-Élie. C'est juste un exemple. Je l'ai vu en Haute-Laurentine, en Outaouais, autour du parc mégantique. Il y en a aussi en Gaspésie. Bref, on le vit un peu partout. Et le sentiment, puis je pense que tout à l'heure, Fred Pellerin l'expliquait très bien, le sentiment de ne pas comprendre comment et pourquoi le territoire, les droits à l'exploration d'un territoire est donné aussi facilement et comment les gens peuvent se sentir dépossédés de leur droit à être consultés ou pas, s'il va y avoir ou pas une exploration minière, ça crée vraiment une grande frustration puis une grande crainte, voire des questionnements, puis avec raison, parce que en ce moment, la loi sur les mines, le cadre minier au Québec, fait en sorte que les activités minières, que ce soit d'exploration ou d'exploitation, ont préséance sur tout le reste, ont préséance sur des outils d'aménagement du territoire. Et les municipalités, surtout les petites municipalités, se sentent un peu imposer des choses quand elles n'ont pas été consultées au début pour savoir si, au tout début, elles voulaient ou pas faire partie de ce type de projet de développement minier.
J'ai pas entendu dans le documentaire, puis je me souviens pas parce que j'avais assisté à une réunion, une espèce de team où on parlait de, des claims miniers dont tu faisais partie. Fred parle du fait que son permis lui dure 3 ans. La compagnie minière, elle, qui l'achète, est-ce que c'est le même délai?
Oui, en fait, un claim, le droit d'exploration, il est vendu en ligne. N'importe qui peut en acheter. C'est d'une durée de 2 à 3 ans. La plupart du temps, c'est acheté par des compagnies minières d'exploration, ouais, voire des gens qui vont faire la prospection, c'est-à-dire qu'ils vont voir s'il y a un potentiel ou pas. Puis, il faut comprendre aussi, parce que j'essaie de pas être... d'être trop dans l'urgence ou de pas rentrer en mode panique, là. C'est-à-dire qu'un claim minier ne veut pas dire nécessairement que de facto il va y avoir une mine qui va s'installer. Mm-hmm. Un claim minier, c'est un droit pour une compagnie de voir s'il y a un potentiel minier sur ce territoire-là et par la suite, si c'est le cas, de monter un dossier puis le présenter auprès du ministère des Ressources naturelles pour entamer la démarche d'avoir une mine. C'est pas tous les claims miniers qui sont explorés non plus, là. Mm-hmm. C'est vraiment moins que la moitié, là. Ils le font juste, l'achat massif, il est fait juste pour se donner plus de chances. C'est comme, c'est quand on veut avoir la loterie, on n'achète pas juste un billet. Peut-être si on est capable, on s'achète plusieurs pour voir si on a plus de chances. Après 2-3 ans, la compagnie doit faire un petit rapport qui montre s'ils ont fait ou pas des activités d'exploration dans les territoires qu'ils ont claimés. Ça peut être des photos, de la télédétection, ça peut être des visites, etc. Et ils peuvent renouveler leur claim. Et c'est ça qui est un peu dommage quand on le fait par des citoyens, parce que je comprends les initiatives comme celle de Saint-Élie-Carson de dire on va acheter des claims nous-mêmes pour ne pas permettre aux autres compagnies de leur donner le droit, parce que notre système, il y a une faille, puis c'est le fait que n'importe qui, n'importe où sur la planète peut, sur avec une carte de crédit et quelques, même pas 100 $,
acheter les sous-sols.
Acheter le sous-sol, acheter le droit à explorer le sous-sol. Mm-hmm. Donc, quand les individus le font pour plusieurs raisons, après 2-3 ans, ils vont devoir montrer qu'ils ont fait l'exploration ou pas. Ça va sûrement pas être le cas. Je pense pas que Fred Pellerin va le faire. Mm-hmm. Mais c'est un geste qui permet un peu, qui marque l'imaginaire en disant voici comment marche notre système. Que n'importe qui, n'importe où peut avoir ces droits-là, mm-hmm, qui est en soi, par contre, qui ne devait pas avoir lieu, surtout au Québec. Peut-être pour se situer rapidement, cette tradition du click and claim, du free mining, ben, c'est un legs du colonialisme britannique. C'est le même cadre qui a mené à l'occupation du Canada, ben, des territoires canadiens au 19e siècle. Fait qu'on est dans cette même logique des colonies ressources, et c'est de là où vient le principe du free mining.
Je pense qu'Alexis s'en allait dans
là,
ce...
Il y a deux interventions que j'ai envie de faire en même temps, il faut que je choisisse, mais surtout que ben, quand tu parles de colonies, ça m'amène à quelque chose que je trouve... ben, super intéressant. Je suis allé dans le cadre de ma maîtrise en sciences de l'environnement en Abitibi, puis j'ai notamment parlé au maire de Malartic, puis en fait ce qui se dégage en fait des discours des gens qui sont en Abitibi, ben, premièrement c'est très complexe le rapport au monde minier là-bas, mais ce qui est super intéressant c'est justement cette dynamique-là comme néocoloniale du Québec qui va coloniser son nord, en fait, pour en extraire des ressources. Mais les gens là-bas, ils sentent bien que c'est comme une dépendance économique qui est à double tranchant, qui aimeraient diversifier leur économie pour ne pas dépendre que de la mine, mais qu'ils n'en ont pas les moyens parce que l'essentiel des ressources extraites s'en vont ben, dans le sud, à Québec, à Montréal et compagnie. Puis je sais pas qui, si, qu'est-ce que tu as. Là, on, peut-être qu'on ressort un peu de la thématique des claims, mais il y a. En train de parler de colonialisme, pas, je pouvais pas m'empêcher de commenter le fait que comment on fait pour parler de redistribution de la richesse entre les régions du Québec dans, quand on parle des mines. Puis surtout, avec le boom qui s'en vient avec le lithium et compagnie, qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le terrain?
C'est une question qui est tout à fait reliée, en fait, quand on parle d'exploitation des ressources. Le claim, pour moi, c'est la porte d'entrée pour comprendre ce système-là. C'est la première chose qui va apparaître sur le territoire, c'est-à-dire de voir le territoire claimé. Une fois que le territoire va être claimé, peut-être un pourcentage de ce territoire-là va être exploré, puis on va arriver à 20%, 15% qui va peut-être être exploité. Ceci dit, tu as tout à fait raison qu'on est, notre loi de mine nous maintient dans des rapports coloniaux à l'exploration puis l'exploitation de ressources. Puis après, on est devant un choix, c'est-à-dire qu'on a besoin de certaines ressources. Nous avons besoin pour électrifier les transports. Tantôt, on parlait de transport collectif, mais ça va passer aussi si on veut faire des autobus interrégionaux. Je donnais l'exemple tout à l'heure, mais on aimerait ça qu'ils soient électriques et c'est tout à fait respectable et important pour l'environnement. Mais de l'autre côté, la question qu'on doit se poser, c'est comment, mais surtout comment on le planifie, la planification de l'exploitation des ressources naturelles, c'est quelque chose qu'on laisse trop aux lois du marché, trop encore à ces principes de free mining, et que on n'a pas tout le pouvoir sur ces ressources-là. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de la Abitibi, où je me suis rendue aussi et j'ai parlé avec des préfets et des gens qui travaillent dans les mines et qui disent bien sûr qu'on a un rapport qui est complexe, parce que autant que ça donne de l'emploi, puis autant que ça donne qu'il y a plusieurs activités économiques, mais en même temps, on ne voit pas toutes les retombées de cette exploitation-là. Et comme tu l'as dit, par mal ceux qui n'est pas transformé et qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec, parce que c'est Glencore et compagnie, c'est les Barrick Gold de ce monde qui vont s'en faire à mettre plein les poches versus le prix qu'ils payent. En ce moment, vous savez, au Québec, on a des redevances minières, mais ces redevances-là ne sont pas assez hautes pour être capables de redistribuer les bénéfices un peu partout au Québec. Et ces bénéfices-là, ils ne vont pas tous directement aux populations qui ont participé. Puis, bon, on pourrait en jaser longtemps au pire de comment on considère ou pas les droits des peuples autochtones à la consultation, sur leur terre, comment l'exploration s'est faite sur leurs territoires ancestraux qui se font claimer et qui n'ont aucun pouvoir là-dessus. Bref, puis peut-être pour si c'est quelque chose qui vous intéresse, toute l'année qui vient de passer, plusieurs groupes et moi-même comme parlementaire, j'ai fait beaucoup de travail de pression pour qu'on se penche sur ces questions-là. Et si tout va bien, puis ce qu'on souhaite, c'est que la loi sur les mines va être réouverte quelque part l'année prochaine. Moi, j'ai eu l'engagement de la part de la ministre des Ressources naturelles et moi, je lui dis clairement, je suis très contente parce que pour moi, ça fait partie d'un des gains qu'on peut dire parce qu'on ne peut plus continuer avec le même cadre. On ne peut pas se lancer dans l'exploitation des lithium et des ressources stratégiques. On ne peut pas se lancer au 21e siècle avec des outils qui datent des 150 ans. Là.
Oui,
alors, on espère, et je le souhaite vraiment, qu'on va continuer cette pression-là pour réformer le plus de choses possibles, pour se donner un meilleur cadre. Mais pour ça, il va falloir aussi que la société civile, que les différentes communautés, comme la communauté de Fred Pellerin à Saint-Éducation, continuent à se mobiliser parce que c'est ça qui va donner de la pression et ainsi, espérons-le, avoir un meilleur, moi, ce que j'appelle un contrat social minier qui va nous aider autant dans la transition que dans le respect du territoire.
Dans le Teams qu'on avait, auquel j'avais assisté, il y avait été mention dans l'Outaouais de quartiers qui risquaient pas de disparaître, mais de payer pour les droits des mines, justement. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que j'avais mal compris?
En fait, ce qui est arrivé à l'Outaouais, à l'est des Gatineaux, c'est que certaines parties d'un quartier, on était, il y a eu des claims, donc des droits d'exploration qu'on était vendus et que tout le monde a réagi comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi c'est en zone urbanisée. Et c'était parce que il n'y avait pas eu, c'est un peu plus complexe, mais il n'y avait pas eu un découpage du territoire qui était incompatible avec l'activité minière, okay. Qui ne s'était pas faite. Alors, les municipalités ont réagi très, très fort et avec raison mm-hmm. pour que le gouvernement agisse. Et ça vient un peu ce que je disais à la planification. Il faut qu'on délimite encore en amont quels sont les territoires qui sont compatibles et quels sont les territoires qui n'en ont pas, qui ne sont pas compatibles avec l'activité minière. Mm-hmm. Donc, oui, bien sûr, toutes les zones urbaines et périurbaines, mais on devrait ajouter nos territoires agricoles. C'est une chose qu'on voit, des oui. droits d'exploration qui sont vendus dans le sous-sol des terres agricoles, entre autres en Abitibi. On ajouterait peut-être nos parcs, ben, nos parcs nationaux le sont de facto, mais nos parcs régionaux ne les sont pas. Il y a une couple de parcs régionaux comme Kiamika dans l'autre Laurentine. En ce moment, on entend parler beaucoup parce qu'il y a la digue qui a brisé. Ben, dans le parc, c'est le parc Kiamika et qui est une réserve faunique là-bas aussi. Fait que ça, il faut que ce type de parc soit retiré. Et, mais pour ça, on a besoin de travailler en amont avec les municipalités pour qu'ils aient leur mot à dire mm-hmm. et ainsi on puisse planifier l'exploration sur le territoire.
Moi, j'ai une petite question. Puis en fait, c'est le témoignage de Fred Pellerin qui m'a fait penser à ça. Du côté de la protection de la biodiversité, il y a des... En fait, ce qu'on appelle des... Il y a des fiducies d'utilité sociale, hein, les fiducies d'utilité sociale, fus pour les intimes, dont la...
Peux-tu expliquer,
Alexis? Oui, je vais t'expliquer. C'est quoi? Ben, c'est, en fait, c'est comme un mécanisme juridique qui permet, en fait, de... En fait, c'est une fiducie, c'est quelque chose qui va... plus j'explique très mal, là, mais permettre de posséder des ressources...
Comme une entité autonome?
Ben, c'est une entité qui va posséder des choses. Puis l'idée de la fiducie d'utilité sociale, c'est précisément, tu sais, c'est dans son nom, c'est qu'elle est, il faut qu'elle ait une utilité sociale, donc pour le bien collectif. Donc, puis là, je donne l'exemple de la fiducie d'utilité sociale, Lanaudière, qui, elle, va, en fait, soit avoir des dons de terrain, soit en acheter. Puis là, ça rentre dans le patrimoine de la fiducie. Puis là, ça, c'est géré par des gens qui sont des fiduciaires, mais ils peuvent rien faire avec. Ils peuvent pas les vendre, ils peuvent pas... mais c'est ça, ils peuvent pas les vendre, ils peuvent pas développer le terrain parce que c'est écrit dans l'acte constitutif de la fiducie, ça va être protégé à perpétuité.
Fait que t'es en train de dire que ce serait quelque
chose. Mais c'est ça, je me dis, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose avec le sous-sol, avec les claims miniers? Puis tu sais, un citoyen comme Fred Pellerin peut pas genre faire de la prospection pour justifier qu'il puisse posséder, continuer à avoir son claim au bout de 3 ans, mais est-ce que ça se pourrait, plus je pose la question, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, Alejandra, mais est-ce que ça se pourrait une fiducie d'utilité sociale comme ça sur les claims miniers, puis que comme c'est une fus, il y a plus de pouvoir pour genre faire semblant faire de la prospection, puis je ne sais pas, mm-hmm. protéger les...
Ben, c'est vraiment une idée intéressante. Je pense que toute initiative qui permet la protection, la conservation dans ce sens-là est bénéfique. Il y a deux choses qui en ce moment nous empêchent de faire ça. Mmh. La première, c'est que le sous-sol québécois, il appartient pas à la personne qui, mettons, il y a une maison. Il nous appartient pas. Il nous appartient collectivement parce que ça passe par le gouvernement. Donc c'est un bien public dans le sens que le gouvernement le gère à notre place. Mm-hmm. Et comment le gouvernement le gère, c'est qu'il le met à l'encan par des claims miniers. Mm-hmm. Ben, ça, dans le droit, c'est ça. C'est pas une propriété privée, c'est pas une propriété collective comme ça. Fait que, il faudrait que ça vienne vraiment d'une initiative que le gouvernement ferait, je sais pas, des claims verts ou des claims nature pour cela. La deuxième chose qui nous empêcherait de faire ça en ce moment, puis je pense que c'est le changement le plus important à faire dans le plus court terme, c'est la préséance du droit minier sur les outils d'aménagement. C'est-à-dire qu'il y a une ligne dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit que devant un plan d'aménagement, puis si par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit une fiducie ou une municipalité ou quelqu'un qui dit, ben moi, cette zone-là, c'est une zone verte, elle fait partie d'une trame verte pour la biodiversité, etc. Ça, c'est dans leur plan d'aménagement. Mais la loi, ce qu'il dit, c'est que la loi sur les mines, donc les droits à explorer, à préséance, donc a plus de pouvoir qu'un zonage municipal pour la protection. Donc, il va être au-dessus du plan d'aménagement.
Non, il faut que ça change. Hein?
Et cette loi, cet article loi, selon nous, doit disparaître.
Absolument.
Parce qu'il est tout le temps en conflit, puis les municipalités au Québec se mobilisent pour ça. J'ai rencontré l'Union des municipalités du Québec. Ils disent que c'est la moindre des choses à faire, parce que ça ne veut pas dire qu'on est contre les mines. On n'est pas contre les mines. On veut juste que les plans d'aménagement soient respectés pour qu'on puisse avoir des initiatives comme celles dont tu nommais, que ce soit des feux de scie, que ce soit d'autres lieux de conservation, et que ce soit respecté en fin de journée, et qu'il n'y a pas un autre... Il y a pas un autre projet qui vient mettre de côté les efforts de conservation.
On a Flo qui aimerait poser une question.
Oui, moi, je suis assez ignorant par rapport à toutes ces choses de claim minier-là.
C'est notre plus jeune Z, ça.
Oui, c'est moi, ça. Puis, je me posais la question, est-ce que c'est... Parce que là, on parle d'environnement dans cette émission-ci, puis est-ce que ça a un si grand impact sur l'environnement, toutes les industries minières au Québec? Est-ce que c'est très, très important comme industrie, oui. Là.
En fait, notre État est très vaste au Québec et ouais. La plupart du temps, majoritairement, les industries minières se retrouvent dans le nord du Québec. Fait que c'est rare que les habitants du sud, comme vous et moi, on soit confrontés aux impacts des mines. Il y a une des choses, j'ai quand même un background en sciences de l'environnement, puis une des choses que j'ai appris, c'est que l'activité minière est une des activités qui a plus de conséquences sur le paysage, sur la santé des sols, la santé des eaux. Ça prend. Quand on arrive, je ne sais pas si vous êtes allé à Malartic voir le trou. Mais Malartic, c'est impressionnant de voir la grandeur de cette mine-là. L'activité d'exploitation, c'est on extrait des ressources, on extrait constamment des ressources. Mais il n'y a rien, on ne prend pas soin de ce sol-là. Une fois que le sol est épuisé, on ferme la mine. Oui, il y a des activités qui sont... Il y a beaucoup d'activités pour réduire l'impact au Québec parce qu'on a quand même une réglementation, on a quand même des principes pour rétablir les sites miniers et tout. Ceci dit, il y a quand même un grand impact dans le paysage, dans le déplacement des populations, santé des sols, santé des eaux, etc. L'enjeu, puis on est plus dans un principe de précaution ici, c'est que avec les minéraux stratégiques, il y en a de plus en plus qui se trouvent dans le sud du Québec. Le graphite, par exemple, on le voit dans le coin de la Naudière avec la mine de Nouveau Monde Graphite, une mine qui est québécoise. Et bien sûr qu'ils font tout ce qui est possible pour eux pour réduire leur impact, mais il y en a quand même un. Alors, il faut être prudent quand on est pour faire ce type d'activité-là. Il faut les encadrer le mieux possible. Personnellement, nous ne sommes pas, ni moi, ni ma formation politique, contre les activités minières. Mais comme je disais, on ne veut pas les faire apparaître de façon aléatoire un peu partout sur le territoire.
Non,
on prend les impacts, mais surtout sans écouter les populations qui habitent. Et c'est ça l'enjeu en ce moment, c'est que les droits de l'exploration commencent à se faire dans des zones allées, là où les gens ont des chalets, là où nos espaces verts sont les plus fragiles dans le sud du Québec, c'est là qu'on doit conserver le plus notre nature, parce que c'est là où on en manque le plus si on veut atteindre nos objectifs de conservation. Alors, c'est tout cet enjeu-là. Donc, ce n'est pas dire que le fleuve Saint-Laurent va être complètement pollué du jour au lendemain. C'est qu'il faut comprendre, atténuer les impacts, mais surtout les débits de l'apparition des mines, s'il y en a de plus en plus dans le sud du Québec.
Bon.
Mon Dieu, je pense qu'il va falloir aller rentrer, il va falloir revenir. Hein? Alexis, tu as une petite dernière question, il ne reste pas beaucoup de temps.
Je ne vais pas vous préparer d'autres questions, mais sinon, merci beaucoup d'être venu, là, c'est super éclairant. Puis j'ai l'impression que c'est effectivement un sujet... On pourrait en parler pendant des heures. Comme tu l'as dit, on n'a pas parlé des droits des peuples autochtones. Puis ça, c'est comme complètement une autre histoire. Là. Ça vient diviser des communautés. C'est les mines dans dans le Nord, là, tu sais, notamment les communautés cries, en tout cas. Mais je sais pas, là, je regarde ma mère. Si on a le temps pour une autre question, je sais pas si on peut aller là, si t'as quelque chose à dire.
Ben, il nous reste une minute.
OK, bon, on n'a pas le temps d'aller là.
Mais... je peux juste faire une petite conclusion par rapport
oui,
à...
Oui, oui.
Donc, si je comprends bien ce que t'as dit, Alejandra, en gros, les claims miniers puis les mines, le problème, c'est moins par rapport au GES puis plus par rapport à la modification du territoire puis de l'environnement lui-même, c'est ça?
Oui.
C'est exactement ça. C'est vraiment les impacts sur le territoire, santé des sols, santé des eaux. Il y a toujours, bon, un peu de GES au nombre des camions puis le transport, okay. Mais c'est plus en lien avec ça, oui.
Parfait, merci.
Hey, les gens de Verdun, quand c'est brillant, hein? Il y a trois personnes de Verdun ici avec notre député. Alors, ben merci énormément, Alejandra. On doit passer à notre chronique sport faite par notre Julien de 10 ans qui parle d'une équipe de hockey qui va être installée à l'Auditorium de Verdun. Tout revient à Verdun. Le monde commence là. Le monde commence à Verdun. Alors, merci infiniment. Du repos. Une prochaine fois, parce qu'il faut absolument en reparler, c'est un enjeu important, important.
Merci à vous, c'est un grand plaisir.
Ah, pas autant que je, pour nous, en tout cas. Merci infiniment.
Bye-bye.
Bye.
Bonjour Louise. Contrairement aux autres semaines, je vais vous parler d'un événement à venir. Car dès le 1er janvier, la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, commencera. La moitié des équipes de la LPHF seront au Canada et l'autre moitié aux États-Unis. Il y en aura donc 3 au Canada et 3 aux États-Unis. Nous avons la chance d'avoir une équipe à Montréal. La plupart des matchs locaux se déroulent à l'Auditorium de Verdun, là où je m'entraîne. Les têtes d'affiche de l'équipe montréalaise sont l'attaquante Marie-Philippe Poulin et la meilleure gardienne de but du monde, Anne-Renée Desbiens. Elles se sont toutes deux illustrées aux Jeux olympiques. Le premier match en sol montréalais se déroulera le 13 janvier. C'est donc un événement à ne pas manquer.
Ah ben c'est sûr qu'on ne manquera pas ça. Merci beaucoup, Julien.
De rien.
Eh oui, tout est à Verdun cette semaine, que voulez-vous? Je voudrais vous parler d'un événement qui a lieu depuis quelques semaines et qui, cette semaine, justement, change un petit peu. C'est le bingo radio de CIBL.
Oh ben.
Écoute, on en a besoin de ce bingo-là.
C'est le fun, le bingo.
Il passe à une vitesse supérieure avec une nouvelle case horaire. Il y a un livret revampé de 5 cartes de jeu et maintenant, il y a 3500 en prix chaque semaine.
Dang.
Le nouvel horaire commence dès le dimanche 7 janvier 2024 de 13h à 15h sur les ondes de CBL 101,5 qu'il faut écouter. Hein? Vous savez, notre réseau, là, il va loin. Là. Je pense qu'au Mont-Saint-Hilaire, on peut nous entendre. À Laval, on peut nous entendre. Mm. Et puis, ben là, c'est terminé cette émission tout en
rebondissement, plein minier et
oui, c'est ça. Puis dans ce beau vendredi chaud et merveilleux, c'est bientôt Noël. La semaine prochaine, on est là toute la gang. Bye, bonne fin de semaine.
Bonne chance au bingo.
Hey, merci pour la belle soirée. Je vais y aller, moi.
Attends un peu. Tu conduis même si t'as pris un verre.
Non, je suis bien correct.
Redis-moi ça plus proche.
Je suis bien correct.
Oh! Ça sent le sapin. Fernand, viens donc sentir ça.
Je suis bien correct pour conduire. J'ai presque pas bu.
Ouais, ça sent le sapin à planche.
Ça sent le sapin jusqu'ici.
N'essayez pas de leur passer un sapin. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Cherche un vin 100% Riesling, mais à 0,5% d'alcool.
Un gin fort en goût, mais faible en alcool.
Et un mousseux avec beaucoup de prestige.
Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
J'écoute Lire et délire. Tu connais?
Non, c'est quoi?
Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, 4 Schnappans vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.
Cette émission est une reprise.